Ce matin, j'avais à cœur de vous parler d'un sujet en particulier. On entre prochainement dans une période de l'année où est-ce qu'on va célébrer les dimanches de la fête des mères, de la fête des pères, et combien ont hâte de recevoir un cadeau cette année? Il n'y en a pas beaucoup. Je vois 3-4 là-bas au fond. Et c'est des dimanches qui sont importants parce qu'on se rappelle de l'importance des relations. Et dernièrement, je faisais un peu comme tous les jeunes de ma génération, c'est-à-dire que j'avais mon téléphone dans la main et je scrollais avec un regard totalement inerte ce qui se passait sur Instagram. Et je tombais sur une vidéo. Mais je sais pas, vous faites pareil. Et je tombais sur une vidéo. Une vidéo où est-ce que c'est un gars qui se filmait en plein trafic. Il sortait de sa voiture et puis filmait un trafic monstrueux, immense. Puis il commençait à expliquer tout ça là, tout ce que vous voyez là. C'est à cause d'une chicane de couple. Parce que plus loin, vous la voyez pas la voiture, tellement qu'il y a du trafic, mais plus loin là-bas, il y a un couple qui se chicanait tellement dans la voiture que le gars, il s'est arrêté en plein milieu de la route, il est sorti de son char, il a pris les clés, il les a balancées dans le ravin, puis il a continué à pied en laissant sa blonde en pleurs sur le bas-côté. Tout ça à cause d'une chicane. Imagine-toi demain matin, t'as passé un bon dimanche, t'es en forme pour attaquer ta semaine, tu vas à Montréal, tu vas à ton travail et t'es pogné dans le trafic à cause d'un homme brillant qui s'est chicané avec sa blonde et qui a balancé ses clés dans le Saint-Laurent. Je vous rassure, ce couple, c'est pas le mien. Mais je suis sûr d'une chose, je connais pas ce couple, mais je suis sûr d'une chose. C'est que ce n'a pas été la première chicane. Vu l'intensité de l'affaire, là, parce qu'on parle quand même d'un homme qui lance les clés dans le ravin. La voiture, c'est quand même la deuxième femme pour les hommes, hein, généralement. Vu l'intensité de l'affaire, je suis sûr que ça a été le résultat d'une dizaine et de dizaines de chicanes qui n'ont jamais été réglées, qui n'ont jamais été pardonnées. Et cette histoire, pour moi, c'est la preuve que ne pas pardonner peut avoir des effets désastreux sur ta vie, sur ton couple, mais aussi sur tous ceux qui sont autour de toi et qui n'ont absolument rien demandé. Et ce matin, on va parler du pardon. Et le titre de mon message aujourd'hui, de la douleur à la guérison. Et ce matin, mon message va s'adresser en priorité à toi. Avant de te dire, oh cool, mon mari a besoin d'entendre ce message. Avant de te dire, nice, je vais envoyer ce message à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Avant de te dire ça, ce message s'applique à toi. Parce que tu as peut-être quelqu'un à pardonner aujourd'hui. Et Jésus nous enseigne qu'avant de chercher à retirer la poussière qui est dans l'œil de notre ami, commence à enlever la poutre qui est dans ton propre œil et que tu ignores. Et puis il y en a, en plus, je sais, vous pensez, vous dites, oh, ce message, ça va lui convenir. Mais parfois, on n'arrive pas à pardonner à ceux qui n'arrivent pas à pardonner. Il y en a qui sont en train de se dire, ich, comment se fait le pasteur ce matin? C'est parce que j'ai pas envie d'être pogné dans le trafic à cause de toi. C'est pour ça que je tape fort ce matin. Et on va commencer avec un passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Et l'évangile de Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Et l'évangile de Matthieu, lui, Matthieu, il retrace toute la vie de Jésus. Il retrace des moments clés de la vie de Jésus, les paroles de Jésus. Et à un moment donné, il y a des disciples qui vont voir Jésus et qui lui demandent « Apprends-nous à prier ». Alors Jésus leur apprend cette fameuse prière que beaucoup connaissent sous la prière du « Notre Père ». Et à un moment donné dans cette prière, Jésus va enseigner à ses disciples de prier « Père, pardonne-nous nos offenses ». Comme, que quelqu'un dise comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Puis au cas où, si c'était pas assez clair, Jésus dit quelques versets plus tard, au verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » On l'aime ce verset. On l'aime bien hein, ce verset. On aime bien être pardonné. Mais c'est pas fini. Il y a un « mais » derrière. « Mais » Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. Yish ! On aime un petit peu moins ce passage. Hein ? Jésus nous montre clairement ici l'importance de pardonner. Et peut-être que pour plusieurs ce matin, alors que je commence à parler de pardon, alors que ça fait quelques minutes que je parle de pardon, t'as déjà érigé tes barrières. T'as déjà fermé ton cœur à double tour. Parce que pour toi, tu dis, je sais que c'est impossible que je pardonne. C'est impossible pour moi de pardonner. Tu as parlé là, mais ça n'a rien d'essayer de me convaincre, j'y arrive pas. Parce que la blessure que t'as connue, la trahison que t'as vécue, la douleur que t'as vécue a tellement été intense et violente que pour toi, ça semble être juste impossible de pardonner. Qui t'a trahi ce matin? Qui a abusé de toi? Qui t'a profondément blessé? Qui t'a profondément déçu? Qui a mangé le dernier yogourt dans ton frigo, ton préféré en plus, celui que tu avais tellement hâte de manger en rentrant du travail? Qui a osé le manger et que tu en veux aujourd'hui? Il y en a qui sont en train de se parler entre les couples. Il y en a lui, il est en train de parler de toi. Qui a fait du mal à une personne qui t'est tellement chère qu'aujourd'hui tu réclames juste vengeance? Et c'est peut-être pas une personne spécifique. Ça peut être ton entreprise qui t'a rejeté. Ça peut être ton église même qui t'a fait du mal. Même peut-être ce matin, tu m'en veux à moi. Parce que je t'ai pas salué la semaine dernière. Parce que je t'ai pas dit bonjour. Je vois des têtes qui hochent là-bas. Excuse-moi. Je suis un homme, ok? J'ai un homme. Je sais faire qu'une seule chose à la fois. Je me confesse. Ouais, il y a des hommes qui sont... Ok, alors, je suis un homme spécifique, je sais faire qu'une seule chose à la fois. Et le dimanche matin, je suis tellement focus à mes affaires que tu peux être déguisé en pingouin, je ne te remarquerai même pas. Ne me tentez pas la semaine prochaine, ne venez pas déguisé en pingouin, juste croyez-moi, ok? Mais je sais que certaines personnes, votre blessure, elle est encore plus deep que ça. Le pardon, il semble être impossible à atteindre. Mais est-ce qu'il se pourrait que la raison pour laquelle tu n'arrives pas à pardonner, c'est parce que tu as une mauvaise compréhension du pardon, de ce qu'est réellement le pardon? Et avant d'aller plus loin dans mon message, j'avais envie de voir mon premier point ce matin, ce que le pardon n'est pas. Et j'ai sorti une liste assez exhaustif. J'ai essayé j'ai lu des prédications, j'ai écouté des messages, j'ai écouté des professionnels, j'ai lu des articles, j'ai essayé de condenser tout ça pour essayer de vous sortir une liste assez courte et assez punchée sur ce que le pardon n'est pas. Est-ce que vous êtes prêts? Il y en a trois qui sont prêts, le reste, vous allez suivre. Premièrement, le pardon n'est pas approuver l'offense. Certaines personnes pensent qu'en pardonnant, on approuve la douleur, on approuve la blessure qui nous a été causée. Le pardon, ce n'est pas accepter la blessure qu'on t'a faite. Deuxièmement, le pardon, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé. Ce n'est pas mettre sous le tapis, comme si de rien n'était. Parfois, on peut oublier. Parfois, le pardon amène à l'oubli. Mais parfois, la blessure a tellement été profonde qu'on ne peut pas oublier. On n'oublie pas ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. On n'oublie pas ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 quand les tours se sont effondrées. On n'oublie pas ce qui s'est passé dans les pensionnats avec les enfants autochtones. On ne peut pas oublier parfois. Mais il faut faire attention que si la douleur a tellement été intense qu'on ne peut pas l'oublier, de ne pas cultiver cette douleur, de ne pas cultiver l'amertume, de ne pas cultiver cette rancœur. Parfois on peut l'oublier, mais parfois on ne peut pas l'oublier. Le pardon n'est pas, et j'aime pasteur David Potier, le pasteur de l'église à la chapelle qui l'a formulé ainsi, le pardon n'est pas conditionnel à des excuses. Autrement dit, parfois on se dit, tant que la personne ne me demande pas pardon, je lui pardonne pas. Bon, par contre, si elle me demande, ok, là je suis un bon chrétien, je suis une bonne personne, ok, je te pardonne, mais tant qu'elle me dit rien, je lui pardonne pas. Donc je coupe mon portable, je sors plus, je la vois plus, je veux plus la voir, comme ça je suis sûr que jamais j'entendrai de sa bouche pardon. Le pardon n'est pas conditionnel à des excuses. Certaines personnes ce matin, tu vas devoir pardonner à une personne qui est décédée. Tu vas devoir pardonner à une personne qui ne fait plus partie de ta vie. Tu vas devoir pardonner à une personne que tu ne vois plus et qui ne t'a jamais demandé pardon. Parce que le pardon n'est pas conditionnel à des excuses. Quatrièmement, le pardon n'est pas l'absence de conséquences. Ce n'est pas parce que tu pardonnes que tu renonces à une poursuite judiciaire. Ce n'est pas parce que tu pardonnes que tu renonces à la poursuite judiciaire envers une personne qui a abusé sexuellement d'un membre de ta famille. Parce que le pardon, ce n'est pas fermer les yeux et accepter le mal, ce n'est pas l'absence de conséquences. Le pardon n'est pas non plus de la faiblesse. Ce n'est pas un signe de faiblesse que de pardonner, c'est une preuve d'une force émotionnelle. Une preuve d'une force qui refuse de se laisser écraser plus longtemps par l'offense. Le pardon, ce n'est pas non plus faire confiance. Ce n'est pas parce qu'on pardonne qu'on doit faire immédiatement confiance à la personne. Même si elle dit « j'ai changé », ok. Mais la confiance se perd en un claquement de doigts, mais elle peut mettre des mois et des années à se regagner. Septièmement, le pardon n'est pas la réconciliation. Parfois, le pardon doit amener la réconciliation. J'ai déjà parlé avec des couples, j'ai déjà entendu des témoignages de couples où il y a un des deux qui a commis un adultère et l'autre a choisi de pardonner, mais a choisi aussi de se battre pour la réconciliation. C'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Mais le pardon n'est pas toujours la réconciliation. Et même parfois, on ne l'encourage pas à la réconciliation. Parce qu'il peut y avoir un danger pour l'autre. Parce que l'autre est encore trop, certains de ses penchants, vaut mieux pas se réconcilier avec cette personne. Et enfin, dernièrement, le pardon n'est pas une émotion. Le pardon, c'est un choix. Le pardon ne vient pas quand toutes les planètes sont bien alignées, quand il commence à faire beau à nouveau, quand le vent souffle de l'est et non plus de l'ouest, quand je me sens enfin mieux. Le pardon, c'est un choix. Le pardon, c'est pas quelque chose qui est émotionnel. C'est une prise de décision. Et je dirais même, on va le voir plus loin dans la Bible, quand on lit la Bible, on comprend que le pardon, ce n'est pas une émotion, mais c'est une obligation. Mais c'est pour ça que c'est difficile de pardonner. C'est parce que ça n'est jamais basé sur nos émotions, sur ce qu'on ressent. Je décide de pardonner. C'est pour ça que c'est dur de pardonner. Voilà la liste de ce que le pardon n'est pas. J'espère que vous l'avez retenu, parce qu'à la fin, il y aura une interrogation. Il y en a qui rigolent. Ah mince. Mais maintenant, peut-être qu'en sachant tout ça, en sachant ce que le pardon n'est pas, peut-être que tu es en train de te dire, ouais, mais pourquoi je dois pardonner? Pourquoi est-ce que je dois donner mon pardon? Et j'ai deux éléments de réponse à ça. Premier élément de réponse, et c'est ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est que le pardon, c'est un commandement. L'apôtre Paul a écrit une lettre à l'église d'Éphèse. Et il a dit au chapitre 4 et au verset 32, « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Pardonner, c'est une obligation. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et vous savez, parfois, quand on lit les commandements, quand on lit les obligations dans la Bible que Dieu nous impose parfois, on a l'impression que Dieu fait tout pour un peu casser notre fun. Dieu, on dirait qu'il aime pas le fun. Dieu, il nous empêche de faire des choses qui sont cool et il nous oblige à faire des choses qui ne sont pas cool. Un peu comme les enfants, quand on leur dit « va laver tes dents, fais tes devoirs. Non, pas de McDo ce soir, on mange de la soupe. Avant de conduire ma voiture, passe ton permis. » Toutes ces choses-là, quand on est enfant, on les comprend pas, ça peut nous sembler plate sur le coup. Mais en fait, toutes ces choses-là sont mise en place pour nous parce que c'est pour le bien des enfants. Ce qu'on oublie, c'est que les commandements de Dieu ne sont pas là pour nous frustrer. Les commandements de Dieu ne sont pas là pour nous faire passer une vie ennuyeuse. Les commandements, ce que la Bible nous enseigne, tout est là pour nous protéger. Parce que Dieu veut notre bien. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. C'est pour toi qui te dit parfois des choses à faire et à ne pas faire. C'est parce que c'est pour ton bien. C'est pas juste pour t'ennuyer. Et quand la Bible nous donne le commandement de pardonner, c'est pas juste pour nous embêter. C'est pas uniquement pour qu'on puisse donner le bon exemple de ce que doit être un chrétien. C'est parce que pardonner, c'est bon pour nous. En 2017, il y a une étude qui a été publiée dans la revue Personality and Social Psychology Bulletin. Il y en a qui sont impressionnés par mon amélioration de l'accent en anglais. Bravo pour vos prières, il y a un effet. Et dans cette étude en 2017, 4000 personnes, 4000 adultes ont été interrogés sur leur capacité à pardonner, mais aussi sur leur état de santé mentale et physique. Et les résultats sont impressionnants parce qu'ils ont montré que les personnes qui avaient du mal à pardonner avaient des niveaux de plus élevés de dépression, d'anxiété, de stress, de colère, de douleurs corporelles et de maladies physiques telles que des maux de tête, des douleurs musculaires et des douleurs chroniques. Aïe, aïe. C'est ça que ça fait le non-pardon. Parce qu'à l'inverse, on a constaté que les personnes qui pardonnaient plus facilement avaient des niveaux plus élevés de bien-être psychologique, de satisfaction dans la vie, et ils avaient moins de problèmes de santé physique. Si Dieu veut que tu pardonnes, c'est parce que c'est bon pour toi. Pardonner a des effets positifs sur ta vie. Dieu t'aime tellement, écoute ça bien, Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu pardonnes uniquement pour faire du bien à l'autre personne. Mais il t'aime tellement qu'il veut que tu pardonnes parce que c'est bon pour toi. Ça va t'aider à guérir, ça va t'aider à aller mieux si tu arrives à pardonner. C'est pour ça qu'il veut que tu pardonnes. Parce qu'à l'inverse, ne pas pardonner, ça va te détruire de l'intérieur. L'amertume va te consumer. La colère va t'enfoncer. La blessure que tu as subie va s'infecter. Et ça ne va pas juste se limiter à toi. Comme dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure avec le couple qui s'est chicané dans la voiture, finalement, ça a fait un trafic monstrueux. Parce que le non-pardon impacte ceux qui nous entourent. Les gens qui sont blessés vont toujours, à un moment donné, blesser une autre personne. Toujours. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression « hurt people, hurt people ». Les gens blessés blessent les gens. Est-ce que tu arrives à réaliser, je ne sais pas si tu le réalises parfois parce qu'on est tellement dans notre douleur, mais que l'absence de pardon dans ta vie t'amène à blesser ceux qui sont autour de toi. Ton mari, ta femme, tes enfants, tes collègues, tes voisins, tu les blesses. Même sans t'en rendre compte, tu es en train de les blesser. Quelqu'un a dit un jour, ne pas pardonner, c'est comme si on buvait du poison en espérant que l'autre meure. Le non-pardon est en train de te tuer à petit feu. L'amertume est en train de te consumer. Tu es en train de mourir à l'intérieur de toi. Mais en plus de ça, tu en emmènes d'autres avec toi. Tu en emmènes d'autres dans ta chute. C'est pour ça que le pardon, c'est un commandement de Dieu. C'est parce que c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Pourquoi pardonner ? Parce que c'est un commandement. Deuxièmement, pourquoi pardonner ? Parce que nous avons été pardonnés. Reprenons le texte de tout à l'heure. Éphésiens 4, 32. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez réciproquement comme Dieu. Que quelqu'un dise comme Dieu ? Que quelqu'un dise encore une fois comme Dieu. Bon, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. J'aime tellement la citation de pasteur Craig Groeschel, un pasteur que j'admire tellement, qui a dit que le pardon consiste à offrir aux autres la même grâce que celle que Dieu nous a offerte. Je le crois ce matin que nous sommes plusieurs à avoir expérimenté le pardon de Dieu. La grâce de Dieu, le pardon de nos fautes, le pardon de nos péchés, le pardon de nos manquements. Je sais pas de quoi tu as été pardonné, mais moi je sais que j'ai été pardonné de mes insultes envers Dieu, de mon orgueil, de mes dépendances, de mes mensonges, de ma fierté, de toutes mes mauvaises pensées, et je le suis encore aujourd'hui, jour après jour, par grâce. Et cette grâce-là, cet amour, ce pardon immérité, il n'est pas juste censé rester enfermé à l'intérieur de moi. Il est censé couler au travers de moi. Il est censé couler au travers de moi. Parce que l'évangile, ce n'est pas uniquement tu es pardonné par grâce. C'est ça l'évangile, tu es pardonné par grâce, pas par tes mérites, mais par grâce. Mais c'est pas uniquement ça. C'est parce que tu as été pardonné, parce que tu as goûté au véritable pardon, il faut que tu donnes ce pardon en retour. Pasteur Andy Stanley a dit un jour, « Dans l'ombre de ma blessure, le pardon ressemble à une décision de récompenser mon ennemi, mais à l'ombre de la croix, le pardon n'est qu'un don d'une âme imméritée à une autre. » Et j'aime comment Jésus va illustrer ce point-là. Jésus, en Matthieu 18, on va le voir prêcher, utiliser ce qu'on appelle une parabole. Et les paraboles, c'était des histoires qu'on utilisait à l'époque pour démontrer un point. On utilisait une histoire que les gens comprenaient à l'époque pour démontrer un point. Et Jésus va utiliser une parabole pour démontrer ce point-là. Et en Matthieu 18, Jésus va dire, « C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. » Et peut-être que tu sais pas ce que ça signifie aujourd'hui, 10 000 sacs d'argent, parce que c'était un concept à l'époque, et aujourd'hui, les commentateurs supposent, avec l'inflation, avec la valeur de l'argent aujourd'hui, ça équivaut à une dette d'à peu près 10 milliards de dollars. Ok? Je sais pas ce qu'il a fait avec cet argent, je sais même pas comment il pourra le rembourser, mais personne ne peut payer une telle dette. Il a une dette de 10 milliards de dollars. Et comme il n'avait pas de quoi payer, logique, son maître ordonna de le vendre, lui et sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Parce qu'à l'époque, si tu ne remboursais pas ta dette, on te prenait comme esclave. Toi, tes enfants, ta famille, on vendait tes biens pour que tu puisses payer ta dette. Combien sont heureux que Capital One ne fasse pas comme ça ce matin ? Et le serviteur se jeta par terre, se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Je te paierai tout. Comment ? On parle d'une dette de 10 milliards de dollars. J'ai fait un calcul approximatif. Parce qu'il faut les trouver cet argent, ok ? Je me suis dit « faut gagner au loto ». Gagner au 649. Et j'ai calculé, il faut gagner à peu près 450 fois la boule d'or de 20 millions au 649. Rien que ça. Et j'ai décidé de demander à la personne la plus intelligente sur Terre, non pas ma femme, une autre personne plus intelligente qu'elle malheureusement, à l'intelligence suprême d'aujourd'hui, j'ai demandé à ChatGPT. J'ai demandé à l'intelligence artificielle, je me suis dit, ok, je veux savoir la probabilité d'une personne de gagner 450 fois le 649. Et l'intelligence supérieure m'a répondu, c'est impossible. Même pas de calcul, c'est impossible. Tout comme c'était impossible de rembourser cette dette. Mais rempli de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit la dette. T'as plus rien à payer. T'as plus rien n'a payé. Combien aimeraient que leur banquier leur dise ça ? Et une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent, soit environ, on suppose, 12 000 dollars. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Puis après ça, Jésus dit que le roi apprend cette nouvelle, convoque ce mauvais serviteur et l'envoie en prison en lui disant « Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Cette histoire nous révèle que notre dette envers Dieu, nos péchés, nos fautes, nos mensonges envers Dieu dépassent toutes les autres dettes de ceux qui nous ont fait du mal. Peu importe ce qu'on t'a fait, peu importe ce que tu as vécu, et je ne minimise en rien la souffrance que tu ressens aujourd'hui, mais peu importe les abus, les mensonges, l'injustice que tu as vécu, peu importe le montant de la dette que les autres ont envers toi, cette dette-là sera toujours plus petite que ta dette à toi devant Dieu. Même si une personne a une dette énorme envers toi, comme dans cette parabole, parce qu'on s'entend, on peut en faire des choses avec 12 000 dollars. Hein. Jésus ne méprise jamais le montant de cette dette. Jésus veut te faire comprendre que si tu considères la dette des autres plus grande que ta dette à toi devant Dieu, tu ne pourras pas pardonner. Tu seras incapable de pardonner. Parce que c'est comme si tu disais, mes fautes envers toi, Seigneur, sont bien moins graves que les fautes qu'on m'a faites à moi. C'est exactement ça. Et la conséquence du non-pardon, c'est qu'on finit en prison. Le serviteur a fini en prison. Et oui, on peut finir en prison, dans une prison qui est spirituelle, mais c'est aussi une prison émotionnelle. Combien sont en prison ce matin ? Combien sont emprisonnés parce que tu n'arrives pas à pardonner ton mari, ta femme qui t'a trahi ? Combien sont encore emprisonnés, enchaînés aujourd'hui parce qu'un membre de leur famille vous a blessé ? Combien sont enchaînés ce matin, sont en prison ? Parce que ce collègue à qui tu faisais confiance t'a utilisé pour gravir les échelons et t'écraser ensuite. Combien sont en prison ce matin parce que tu n'arrives pas à pardonner parce que ton père a été absent pendant ton enfance ? Combien sont en prison ce matin à cause de toutes ces personnes ? Tu n'arrives pas à pardonner à toutes les personnes qui t'ont dit « t'es incapable, t'es mauvais, t'y arriveras jamais, t'es nul ». Et tu n'arrives pas à pardonner et tu vis juste dans cette prison de rancœur, cette prison de colère, cette prison d'injustice. Pardonner, c'est clairement pas facile. Mais le pardon, c'est la clé pour te libérer ce matin. Pardonner, c'est goûter à la liberté. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu sois encore enchaîné aujourd'hui. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu sois enchaîné ce matin. Jésus est mort à la croix pour que tu puisses goûter à la liberté. À la liberté d'être à la fois pardonné de tes fautes, mais à la liberté de pouvoir pardonner ceux qui t'ont blessé. Il y a un homme d'affaires américain, Paul Bowes, qui a écrit un livre sur le pardon et qui a dit un jour que le pardon ne change pas le passé, mais qu'il élargit l'avenir. Il y a plus pour toi que la tristesse. Il y a plus pour toi que cette prison. Il y a plus pour toi que cette vie marquée par les blessures, marquée par la rancœur. Il y a plus pour toi ce matin. Avant, tu étais une personne pleine de vie, joyeuse, heureuse, agréable avec les gens, qui connectait avec les gens. Mais depuis que tu as été blessé, tu n'arrives pas à pardonner. Et tout ton monde s'est assombri. Même les gens autour de toi ne te reconnaissent plus. Tu blesses ceux qui t'aiment. Tu blesses même ceux que tu aimes. Tu n'arrives plus à faire confiance. Tu n'arrives plus à t'ouvrir comme avant. Tu es juste rongé par l'amertume. Tu es juste plongé dans une prison de malheur. Tu es juste malheureux, malheureuse parce que tu es dans cette prison de l'offense. Alors qu'il y a un avenir bien plus radieux pour toi à l'extérieur. Alors qu'il y a autre chose pour toi. Tom Hanks a joué dans un film dernièrement, Le pire voisin au monde. Et je ne vais pas vous spoiler. Mais dans le film, on voit Tom Hanks jouer un personnage qui est détruit et blessé par des blessures non pardonnées. Et c'est à la fois drôle parce qu'il est très cynique, ce monsieur, mais c'est à la fois tellement triste parce qu'on se dit à la fin, quel temps gâché, quel temps perdu, le nombre d'amitiés gâchées, le nombre de relations détruites parce qu'il n'a pas pardonné. Et peut-être ce matin, tu ne sais juste pas comment faire pour pardonner. Tu essayes, mais tu n'y arrives pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut que tu comprennes que le pardon, c'est un processus. C'est une étape à la fois. Le pardon est un processus. Mais pour savoir comment vraiment pardonner, on doit regarder à Jésus. Jésus est la clé. Jésus est ta clé ce matin. Jésus est ta solution. Il faut que tu regardes à Jésus. Nous devons continuellement regarder à Jésus qui a été l'exemple et qui est l'exemple parfait pour nous. Et Jésus, alors qu'il est en train de mourir à la croix, Jésus s'est fait insulter. Jésus s'est fait frapper. On l'a défiguré. On le reconnaissait même plus. Alors qu'il est en train de se faire assassiner injustement. On est en train de se moquer de lui. On lui crache dessus. Il est humilié. La croix, c'était un instrument d'humiliation. au lieu de crier à Dieu, « Hey Seigneur, envoie-leur la foudre !» L'une des dernières paroles de Jésus, c'était « Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. » Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a prié pour ses ennemis. Jésus a appliqué son propre enseignement. Parce que Jésus a enseigné « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Et c'est pas du style prier comme « Seigneur, envoie la foudre sur cette personne. Seigneur, que ta main droite le ramène. Seigneur, envoie une armée de tiques dans le jardin de mes voisins. » Parce qu'on parle plus de la Covid en ce moment, on parle que des tiques. Alors il y a « Envoie les tiques chez lui. » C'est pas ça, prier pour nos ennemis. Prier pour nos ennemis, prier pour ceux qui nous blessent, prier pour ceux qui nous ont fait du mal, c'est faire des prières de bénédiction. Père, bénis-les. Priez pour que Dieu les bénisse. Priez pour qu'ils puissent goûter au pardon de Dieu. Priez pour que Dieu puisse les remplir de son amour. Le pardon n'est pas humain. Le pardon, il est divin. Tu ne pourras jamais pardonner par tes propres forces. Tu ne pourras jamais pardonner par tes propres forces. Mais en priant pour ceux qui t'ont fait du mal, en priant pour ceux qui t'ont blessé, Dieu va t'offrir la grâce de pardonner comme tu as été pardonné. Il va t'offrir la grâce, la force, le courage de pouvoir offrir ce pardon que toi, là, un jour, tu as reçu. Ce matin, tu peux guérir dans le nom de Jésus. Si le nom de Jésus t'a pardonné de toutes tes fautes, le nom de Jésus peut t'amener à pardonner tous ceux qui t'ont blessé aujourd'hui. Est-ce qu'on peut mettre la photo de la diapo 31, s'il te plaît? Sur cette photo, au premier abord, on pourrait croire qu'on voit un fils et sa mère. En fait, ce que vous voyez là sur la photo, vous voyez une mère et l'assassin de son fils. Le 12 février 1993, le fils unique de Mary Johnson, âgé de 20 ans, a été assassiné par cet homme sur la photo, Oshi Israel, qui avait 16 ans au moment des faits. Il a assassiné le fils de Mary sans raison. Et il s'est fait arrêter et il y a eu un procès. Et au moment du procès, Mary a déclaré que la première fois qu'elle a vu Oshi, alors qu'elle dit « J'étais une femme chrétienne, mais la première fois que je l'ai vu, j'ai vu un animal. » Et j'étais une chrétienne animée par la haine. Et Mary a dû passer devant le barreau, a dû témoigner. Et elle a fait cette déclaration à Oshi avant de partir. Elle lui a dit « Parce que la Bible m'a dit de te pardonner, je te pardonne. » Mais en réalité, depuis la mort de son fils, Mary était pleine d'amertume, remplie de colère, de frustration. Elle détestait tout le monde. Elle rejetait tout le monde pendant des années. Elle blessait tous ceux qui étaient autour d'elle. Parce que le pardon n'était pas là. Jusqu'au jour où elle a réalisé qu'elle devait passer réellement par cette étape. Réellement pardonner. Alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée voir Oshi en prison. Première rencontre après des années. Parce qu'elle voulait le connaître. Elle voulait le rencontrer. Elle voulait vraiment passer par cette étape du pardon. Et la première fois qu'ils se rencontrent, elle lui pose des questions. Elle veut savoir qui elle est. Puis elle réalise à ce moment-là qu'Oshi, lui aussi, était une victime d'un manque de pardon. Parce que lui, il n'arrivait pas à pardonner à l'alcoolisme de son père et à son absence. Et il reconnaît même que si sa vie n'avait pas été définie par la déception, par l'amertume, s'il y avait eu plus de pardon dans sa vie, il n'aurait peut-être jamais assassiné le fils de Mary. Et à la fin de la rencontre, Oshie a demandé pardon à Mary. Mary l'a pardonné. Les deux se sont pris dans les bras. Mary a dit j'ai embrassé l'assassin de mon fils. Mary avait totalement pardonné à ce moment-là Oshie. Et en 2010, après plusieurs années de prison, Oshie est sorti de prison. Et Mary lui a organisé une fête de retour. Elle l'a hébergé pendant un temps. Elle l'a aidé à trouver un emploi. Et aujourd'hui, ils travaillent ensemble dans l'association que Mary a créée sur le pardon pour accompagner des victimes d'assassinats, de violences. Et Mary dit aujourd'hui que Oshie, celui qui a tué son fils, est devenu son fils spirituel. Et j'aime ce que Oshie a écrit à ce sujet, au sujet de toute cette histoire-là. Il a écrit « J'ai appris que si vous vous accrochez à la douleur, elle grandit, elle grandit. Mais si vous pardonnez, vous commencez à affamer cette douleur et elle meurt. » Pardonner, c'est à peu près dire que je renonce à m'accrocher à cette douleur. Les personnes blessées n'ont généralement pas pardonné et souffrent tellement qu'elles finissent par causer encore plus de douleur. Est-ce que tu veux pardonner ce matin? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à vouloir pardonner? Qui est-ce que tu dois pardonner aujourd'hui? À qui tu dois pardonner? À qui même tu dois dire « je te demande pardon » Est-ce que tu en as assez d'être enchaîné ce matin? Est-ce que tu en as assez de te sentir juste malheureux, malheureuse, de te sentir juste comme une épave? Aujourd'hui, il est temps de relâcher. L'amertume ne doit plus faire partie de ta vie. Il y a autre chose pour toi. Il y a autre chose pour toi. Ça peut te sembler impossible, et c'est le cas. Parce que le pardon est divin. Mais tu n'es pas seul dans l'affaire. Demande à Jésus sa force, son amour, sa grâce, son pardon. Ce matin, je suis sûr d'une chose, c'est qu'il y a plus pour toi si tu arrives à pardonner. Il y a plus pour toi si tu commences à relâcher l'offense. Et avant de prendre la communion, Jésus a dit en Matthieu 5, verset 23, « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Et ce matin, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander de quitter vos rangs pour aller demander pardon les uns les autres. Là, on va respecter ça. Mais ce matin, je veux que tu prennes un engagement. Ce matin, je veux que tu prennes un engagement devant Dieu, avec Dieu. Alors que tu vas prendre cette coupe, ce pain et cette coupe, je veux juste que tu viennes devant Dieu et que tu lui dises, Seigneur, à qui est-ce que je dois pardonner? On a vu tellement de fois la prière du sonde moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mais c'est aussi ce moment-là. Seigneur, sonde-moi, à qui est-ce que je dois pardonner? À qui est-ce que je dois pardonner? Je vous invite à baisser vos têtes, je vais prier pour vous. Alors qu'on est tous là devant Dieu, je prie pour que Dieu puisse te mettre des noms à ton cœur. Sois ouvert ce matin à la voix de Dieu qui te parle. Ouvre-toi à cette voix. À qui est-ce que tu dois pardonner? Pourquoi est-ce que tu as de l'amertume? Pourquoi est-ce que tu as de la colère ce matin? À cause de qui? À cause de quoi? Et avant de prendre cette communion, je t'invite à faire un engagement avec Dieu, à prendre cet engagement avec Dieu. Et dire, Seigneur, je m'engage, après la réunion, à rentrer dans ce chemin de pardon. Je m'engage, alors que je vais prendre la communion, à entrer dans ce chemin de relâcher l'offense. Je m'engage, Seigneur, ce matin, après la réunion, à peut-être appeler un membre de ma famille et lui dire « Écoute, pardonne-moi. » À voir quelqu'un lui dire « Pardonne-moi. » À relâcher, à commencer à relâcher l'offense. Je m'engage, Seigneur, ce matin, alors qu'on va, on va reprendre notre vie, Seigneur, à prier pour ceux qui m'ont fait du mal. Alors que je vais prendre cette coupe qui est le rappel que tu m'as pardonné, que mes offenses envers toi en t'aimant étaient plus grandes, alors que je m'engage, alors que je prends cette coupe-là, je veux m'engager devant toi et avec toi. Je veux rentrer sur ce chemin de pardon. Seigneur Jésus, alors que tu es en train de parler aux personnes ce matin, je te prie vraiment que tu puisses nous donner des noms. Donne-nous des cœurs, donne-nous des situations où nous devons relâcher et pardonner. Apprends-nous à réaliser que le pardon, ce n'est pas une option à tes yeux. Aide-nous à réaliser que le pardon, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Père, aide-nous à pardonner. Aide-nous à pardonner comme tu nous as pardonné un jour. Je te prie, Saint-Esprit, que tu puisses venir libérer les personnes qui sont emprisonnées ce matin. Je te prie, Seigneur Jésus, que ton nom puisse briser les chaînes ce matin. Que des chaînes d'amertume puissent se briser. Que des chaînes de colère puissent se briser. Que les prisons du non-pardon puissent s'effondrer ce matin. Je te prie que tu puisses libérer et guérir. Libère des couples, libère des familles, libère des situations. Seigneur Jésus, je te prie vraiment que tu puisses libérer. Apprends-nous à prier pour ceux qui nous ont blessés. Apprends-nous à prier pour nos ennemis comme tu as prié pour tes ennemis, Seigneur. Je te prie pour l'engagement que chaque personne est en train de prendre ce matin devant toi. Seigneur, engage-toi avec eux. Engage-toi avec chaque personne qui prend un engagement ce matin de pardonner. Engage-toi avec eux. Dis-leur, je suis avec toi. Je te lâcherai pas. Je t'abandonnerai pas. Je vais t'aider à avancer sur ce chemin du pardon-là. Ma grâce va t'accompagner. Mon amour va t'accompagner. Et je vais te libérer. Seigneur, touche les cœurs. Guéris ce matin. C'est en ton puissant nom que j'ai prié, Jésus. Que le nom de Jésus libère aujourd'hui. Que le non-pardon puisse se répandre ce matin dans ce lieu. En ton nom, Jésus. Et alors qu'on continue à prier, je vous invite à prendre vos coupes ce matin pour accéder au pain. La communion, c'est ce magnifique rappel de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour nous sauver. Que son corps a été meurtri, brisé, blessé, par amour pour nous offrir le pardon. Il est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour te libérer. Il est mort à la croix pour te faire sortir de prison ce matin, de ta prison. Et c'est l'apôtre Paul qui a écrit en 1 Corinthiens 11, verset 23. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, qui a été rompu pour vous, qui a été brisé pour toi. Faites ceci en souvenir, en mémoire de moi. » Mangeons ensemble le pain de Jésus. L'apôtre Paul continue en disant « De même, il prit la coupe. Après le repas, il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne vous annoncer sa mort, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. Jésus, merci pour ton sang qui nous pardonne. Merci pour notre dette qui a été totalement payé. Merci pour nos 10 milliards de dollars et bien plus encore de dettes que nous avions envers toi qui ont été totalement payées grâce à ton sang. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Aide-nous à te ressembler, Jésus, jusqu'à ce qu'on soit avec toi dans les lieux célestes pour l'éternité. Et en attendant, on mangera de ce pain et on buvra de cette coupe en souvenir de ce que tu as accompli pour nous à la croix pour nous sauver, nous justifier et nous pardonner. Buvons ensemble. Je vous invite à vous lever. On va passer à un dernier chant ce matin qui a proclamé qu'en Christ seul est notre espérance, qu'il est notre rocher, notre espoir, notre justice. Il est notre appui. Il est notre confiance. Il est tout ce matin. Et il peut être ta liberté ce matin si tu décides d'entrer dans ce chemin du pardon. Chantons ensemble et élevons le nom de Jésus avant qu'on quitte ce lieu. Élevons une dernière fois le nom de Jésus ce matin.